Il est 6h10. Oh là là, j'ai l'impression que c'est plus tôt que ça. Et ouais, des fois le matin ça pique. Mais ça fait du bien quand ça passe.
Radio Chablais, suivez-nous. On vous suit.
Le flash nous est présenté par Julie Gay. Bonjour Julie.
Bonjour Loïc, bonjour à tous. La nouvelle conseillère d'État chargée des finances, Valérie Dietli, a présenté hier le projet du budget 2023 du canton de Vaud. Il affiche un déficit de 227 millions de francs dû au contexte inflationniste mondial. Les investissements de l'État s'élèveront tout de même à plus d'un milliard l'an prochain. Un montant qui aura pour principale fonction d'aider à la lutte contre les changements climatiques et de renforcer les infrastructures des transports publics. L'objectif, penser au monde de demain. Valérie Dietli, au micro de Thierry Nicolet.
Toute la politique d'investissement est pour les générations futures, parce qu'on investit aujourd'hui pour demain. On a des investissements pour le budget 2023 qui sont à la hauteur de plus qu'un milliard. C'est un montant conséquent. Et tous ces projets sont pour les générations futures. Ce qui est super important pour moi, c'est cette patte que j'aimerais ajouter au gouvernement de penser à demain, déjà aujourd'hui.
Notons que l'État de Vaud prévoit aussi une baisse d'impôts pour la classe moyenne et les familles, une diminution qui devrait être de l'ordre de 73 millions de francs. Une première en Suisse romande, la maison des écrivaines, des écrivains et des littératures, la MEL, est née à Montet. L'espace actuellement situé au sein du château de la ville a été présenté hier à la presse. Le lieu se veut non seulement dédié à la création, à l'échange et à la formation des auteurs, mais servira aussi à des vernissages ou des conférences pour des amateurs de belles lettres. Le projet est né de l'idée de la Société des écrivains valaisans et a été très vite soutenu par la ville de Montet, qui ajoute ainsi une page à son offre culturelle. Fabrice Teta, vice-président de la commune.
Je crois que ça fait déjà longtemps que Montet est une ville de culture. Le théâtre du Crochetant a été construit à la fin des années 80. Aujourd'hui, c'est un théâtre qui rayonne dans l'ensemble de la Suisse romande. Et puis, Montet est une ville de culture, mais qui s'est développée aussi au fil des années. Et puis, c'est l'occasion, justement, avec cette ouverture de la maison des écrivaines, des écrivains et des littératures, d'ajouter un volet supplémentaire à notre offre culturelle, un volet que nous n'avons pas actuellement, un volet un peu plus littéraire.
Des propos recueillis par Valérie Blum. À terme, la MEL devrait déménager dans la maison Kelbermatten, qui se situe à côté du théâtre du Crochetant et qui a été reprise par la ville de Montet. La fondation lausannoise Terre des Hommes et celle de Terre des Hommes Valais rompent leur collaboration. L'enseigne vaudoise a décidé de mettre un terme à son programme de soins spécialisés et résilie ainsi sa convention de partenariat avec la fondation valaisanne qui gère la maison à Massonger. Cette dernière devra se restructurer et également adapter son budget. Philippe Gex, directeur de la maison Terre des Hommes à Massonger.
On va devoir élargir notre recherche de fonds, c'est une certitude. On passe quand même de 3,4 millions à 4 millions de francs, puisqu'on va devoir ouvrir des bureaux à Genève et Lausanne pour être dans les hôpitaux, pour être proche des enfants, proche de l'aéroport. On a un subventionnement de la loterie romande, que je salue au passage, parce que c'est vraiment important pour nous. Mais autrement, il n'y a pas de subvention de la Confédération ou du canton. Donc on va devoir élargir, on est confiant, mais c'est un défi de plus, mais on est habitué au défi. Et puis en regardant tous ces enfants qui nous entourent, je crois qu'on doit être digne d'Edmond Kaiser, de Paul Veillon, ce Montaisan qui a créé cette maison.
Philippe Gex répondait à Florian Barbet. Faut-il faire primer le nécessaire développement de la production de l'électricité renouvelable en Suisse sur la défense de l'environnement? Le Conseil des États en a longuement débattu hier. Il n'a pas franchement tranché la question. Il a toutefois renoncé à la proposition de dérogation généralisée aux dispositions environnementales. Pas tant pour satisfaire la gauche, mais parce qu'un passage en force au mépris de l'environnement aurait été contraire à la Constitution. Pour que la loi sur l'approvisionnement en électricité ait une chance, il faut construire des compromis. C'est l'avis de la verte Lisa Madzone.
C'est la démarche qu'on a faite, essayer de trouver un projet équilibré, mesuré, en faisant des pas qu'on n'avait pas prévu au début. On s'est vraiment dit, ben voilà, il y a une situation d'urgence, d'incertitude, des graves risques. Donc on fait des pas, notamment sur ces projets de la table ronde hydraulique, ces 15 projets qui pourraient être avancés plus rapidement. Sur aussi ce qu'on appelle les marches proglaciaires, c'est quand les glaciers se retirent. Ce qui reste là, c'est des nouveaux biotopes. Là, on pourrait envisager certaines installations. Donc on est dans une démarche de compromis et je suis certaine que le Parlement va saisir cette opportunité.
Des propos recueillis par notre correspondant à Berne, Serge Jubin. Le Conseil des États n'a pas épuisé les 110 pages de la loi sur l'approvisionnement électrique. Il s'y replongera la semaine prochaine, puis le débat se fera au Conseil national lors d'une prochaine session. À l'étranger, en Italie, l'alliance dominée par l'extrême droite favorite des législatives ce dimanche a tenu son unique meeting commun hier à Rome. Cela au terme d'une campagne éclair qui pourrait porter au pouvoir une ex-admiratrice de Mussolini. Alors l'Italie va-t-elle basculer ? Placée sous perfusion financière par ses partenaires européens après une pandémie dévastatrice, elle devrait remettre son destin entre les mains de Giorgia Meloni, chef de Fratelli d'Italia, formation ultra-conservatrice identitaire et nationaliste. Les républicains au Sénat américain ont bloqué hier le passage d'un projet de loi censé apporter davantage de transparence dans les sommes astronomiques irriguant les campagnes électorales. Une réforme soutenue par le président Joe Biden. Notons qu'aux États-Unis, il est possible pour des groupes de pression et associations de lever d'énormes sommes d'argent sans devoir révéler leur provenance pour ensuite les dépenser en faveur d'un candidat, d'un parti ou d'une idée. Au Moyen-Orient maintenant, le président iranien Ebrahim Raisi a affirmé hier que la mort d'une jeune femme qui a provoqué des manifestations en Iran fera l'objet d'une enquête. Mais il a dénoncé l'hypocrisie des puissances occidentales. En marge de l'Assemblée générale de l'ONU à New York, il a déclaré « Soyez rassurés, une enquête sera certainement ouverte », tout en indiquant que le rapport du médecin légiste n'avait pas fait état d'abus de la part de la police, chose que contestent les manifestants. En sport, en aviron, les mondiaux se passent toujours aussi bien pour les Suisses à Rasic, en République tchèque. 5 bateaux helvétiques ont décroché hier leur ticket pour une finale. Le vaudois Raphaël Haoumada et son équipier Yann Scheube ont notamment terminé 2e de leur demi-finale en 2 de couple poids léger. Dans la même catégorie chez les dames, Frédéric Roll, elle aussi vaudoise, pourra aussi prétendre au podium avec sa partenaire Patricia Merz. Et en hockey sur glace, Lausanne sera privée des services de 2 de ses joueurs durant une longue période. Touché au bas du corps samedi à Davos, Michael Raffl sera absent pendant plusieurs semaines. La nature exacte de la blessure de l'attaquant autrichien, arrivé cet été au sein de la formation vaudoise, n'a pas été communiquée. De son côté, Emilius Krakauskas s'est blessé au ligament d'un genou lors du premier match du championnat vendredi contre Bienne. La saison du joueur lituanien à licence suisse est déjà terminée.